Are you racing or watching? Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucille Como, Boris Pinot et Camille André. L'équipe technique ce soir au Bel Air est composée de Jean-Benoît Tétu, Pierrick Charles et Nadège Antonini. Et autour de moi, Charlotte Garçon, Corinne Rondeau dont le micro a absolument chuté, mais Nadège va s'en occuper immédiatement. Lucille Como, on est toujours en public au Bel Air de vendredi soir, le bar de la maison de la radio. Et à notre affiche ce soir, Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, La forme de l'eau de Guillermo del Toro et Winter Brothers de Ilnur Palmason. Boris Pinot va surveiller, lui, les fils Twitter et Facebook de l'émission. Corinne Rondeau s'amuse déjà avec son micro. Et toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD du film Gabriel et la montagne de Felipe Barbosa, distribué par Condor. Nous ouvrons cette dispute avec un film qui semble faire l'unanimité, ou presque, Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, PTA pour les intimes. Le réalisateur retrouve Daniel Day-Lewis, dont on se souvient de la sobriété de jeu dans There Will Be Blood. Bon, je plaisante. Cette fois-ci, l'acteur campe un grand couturier, Reynolds Woodcock, dans le Londres des années 50. Tout à son art, sa vie est réglée au millimètre par sa sœur, Cyril. Il jette son dévolu, Reynolds, sur une serveuse d'une auberge de bord de mer pour en faire sa nouvelle muse. Mais la jeune femme n'est peut-être pas aussi ingénue et malléable qu'il le pense.
You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Secrets.
Good morning.
Will you have dinner with me?
Yes.
I feel as if I've been looking for you for a very long time. You look beautiful. Very beautiful. I have things I want to do. Things I simply cannot do without you.
Reynolds has made my dreams come true. And I've given him what he desires most in return. Every piece of me. Why are you not married?
Her arrival has cast a very long shadow.
She's barely looked at you this evening, has she?
May I warn you of something? My brother can feel cursed. That love is doomed for him.
I don't like the fabric.
Maybe one day you'll change your taste.
Maybe I like my own taste.
Just enough to get you into trouble.
Perhaps I'm looking for trouble.
Stop!
There is an air of quiet death in this house.
You're not cursed, you're loved by me. Stop playing this game.
What game? What precisely is the nature of my game?
All your rules and your clothes and all this money and everything is a game.
This was an ambush.
Stop.
Are you sent here to ruin my evening and possibly my entire life?
Stop it! Whatever you do, do it carefully.
Phantom Thread, qu'est-ce que c'est dur à dire? tous les Français se ridiculisent aux caisses de cinéma en demandant une place pour le fil fantôme. On va l'appeler comme ça, Charlotte Garçon, pour votre premier regard sur ce film.
Oui, alors moi je l'ai plutôt aimé, donc je vous laisserai après la parole. Je sens une atmosphère de raillerie ambiante.
Pas du tout.
Ambiante.
Du tout. C'est
sans
pas notre
être
genre.
Une inconditionnelle du travail de PTA. Effectivement, alors dans le film, me semble-t-il, se déroule un peu, dans ces films en général, ceux que j'ai vus, se déroule un peu toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a une sorte de bloc de départ, souvent une figure masculine très très lourde, lourdement dans le pouvoir, dans une sorte de puissance, de bloc en bloc comme ça, et puis le film taille dedans, pour essayer de l'affiner peut-être, c'est plus ou moins initiatique. Jusqu'à présent, ça ne me convainquait pas du tout parce que j'avais l'impression que ces films reproduisaient le côté intimidant, intimidateur et surpuissant de ces personnages plutôt que véritablement de travailler à le déconstruire. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression que le film partait effectivement, alors peut-être sans finesse, mais peu importe, d'une figure de maître. Et au lieu d'aller dans le sens qu'on connaît habituellement, à savoir une sorte de biopic de couturier, où finalement tout serait un peu magnifié par le plaisir qu'on a toujours, spectateur, à voir quelqu'un au travail, et notamment dans le milieu de la mode, où il y a quelque chose de satisfaisant à voir. Voilà, sur les corps, des étoffes, des coupes, etc. Là, en fait, à chaque fois, moi, j'ai eu l'impression à la fois, il nous donnait cela et en même temps, c'est pas l'objet. Et l'objet arrive assez rapidement, mais il le tient jusqu'au bout. J'ai eu l'impression d'une certaine sécheresse, et ça m'a plutôt plu, sur le couple. En fait, pourquoi être à deux pour une figure solipsiste. Comment accepter finalement l'amour, on pourrait dire, alors ça fait un peu niais peut-être comme ça, mais à partir de cette figure, d'où le fait que le fil fantôme, si je comprends bien dans le film, c'est au sens très littéral, c'est des petites phrases que ce grand couturier coud à l'intérieur des doublures des habits qu'il fabrique. Donc en fait, personne ne peut les voir, a priori, sauf lui, et c'est un petit peu la littéralisation de son solipsisme, du fait qu'il se suffit a priori à lui-même en tant que créateur, et du coup il ne peut rencontrer qu'une femme dont il fait sa créature. Et même si tout cela est un scénario, voilà, un peu lourd et simple, je trouve que ça occasionne toute une mise en scène et toute une façon de raconter que moi j'ai trouvé très belle dans l'affirmation de cette figure féminine qui monte en puissance. Je ne sais pas si on peut dévoiler.
Pas grand chose.
Voilà, non. C'est...
Verra ce qu'on dit.
Disons qu'il la rencontre alors qu'il a grand appétit. Vous disiez qu'elle était serveuse. Il lui commande une commande gargantuesque et c'est un peu le signe qu'il va la désirer.
Le signe très subtil.
Voilà. Rien n'est subtil, je suis d'accord. Et en même temps, quand ça fonctionne, pourquoi ne pas.
Quand ça fonctionne, voilà, en effet. Alors on va alterner les paroles, je crois, avec Corinne Rondeau à présent.
Oui, bah, finalement, c'est un film intestinal, Charlotte. Non. Écoutez, moi je me suis dit que oui, si on a enlevé toutes les étoffes, si on a enlevé tous les moments de tu es ma chose, tu es ma muse, qu'est-ce qui nous reste? À la fin du film, je me suis dit, bon, si ce scénario se passait dans un milieu qui n'est pas une haute classe londonienne dans les années 50, on serait avec un prolétaire, une femme de ménage, il se mettrait au couteau, quoi. Et donc j'ai un peu regretté qu'il n'y ait pas assez de tranchant dans ce film, parce que je regrette, indépendamment du jeu des acteurs qui m'a quand même plutôt séduite, et je dois dire que la sécheresse physique de Daniel Day-Lewis est assez sexy, mais bon, on peut avoir des défauts hein, parfois. Et j'ai trouvé aussi que Vicky Cripps, l'actrice qui lui donne donc
la réplique,
sa propension à rougir m'a beaucoup séduite, donc évidemment ça m'a un petit peu attirée. J'ai détesté profondément tout ce qui les accompagne en permanence, c'est-à-dire la musique, qui est insupportable. Et je dois dire que c'est vrai que c'est quoi ? C'est des gens qui veulent réussir, c'est des gens qui sont en train de perpétuer une maison de couture qui a été créée par leur mère, puisqu'en fait, le couturier Reynolds Woodcock vit avec sa sœur Cyril, qui est dans un retrait d'ailleurs. J'aime beaucoup ce personnage en retrait, qui est le plus fort, je trouve, de tous. Et Donc, c'est comment maintenir cette vie qui est aussi une vie du passé. Et quand vous, on ne sait pas finalement Phantom Thread ce que ça veut dire. Parce que pour moi, les fils fantômes, c'est aussi le rapport entre la mère, mais aussi la femme qui pourrait remplacer cette mère. Puisqu'en fait, c'est aussi l'inspiration de la mère. Et il cherche des femmes, puisqu'avant qu'elle rentre dans son univers, il y a déjà une femme qui va partir. Et on sent qu'en fait, qu'il choisifie les femmes, puisqu'il cherche des femmes qui soient des modèles et aussi des muses. Donc à ce moment-là, effectivement, ces muses, elles passent et celle-ci va rester. Alors elle reste avec son côté, voilà, je viens de la campagne, j'ai bonne joue rouge, voilà. Et puis effectivement, le film va vers une sorte de Il y a l'ombre d'Hitchcock à l'intérieur, soupçon, voilà. Alors, mais il y a aussi Rebecca, c'est-à-dire que les fantômes, il se sert des fantômes ou des soupçons, Anderson, et il les inverse à l'intérieur de son film. Il les reprend chez Hitchcock, il les inverse dans son film. Et je trouve que, en fait, quand on regarde bien cette question du soupçon ou la question de qui fait quoi, qui ordonne, je dirais, le désir ou le devenir d'un couple, hein, quand on voit qu'il y a Hitchcock, on a l'impression quand même que ce film n'est fait que par le fait de faire un creux. Il fait un creux à partir d'une dimension hitchcockienne. Sauf qu'il n'y a pas de thriller, sauf qu'on n'est pas surpris et que je trouve la fin assez regrettable.
Lucille Gaumont, qui fait des mines à chaque fois que vous parlez, les unes, les autres, et quand ça sera mon tour sans doute aussi. Lucille Gaumont.
Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film. Je pense que c'est même un des meilleurs films que j'ai vu depuis vraiment longtemps. Et j'ai pas du tout l'impression d'avoir vu le même film que vous, même que vous, Charlotte, qui l'avait plutôt aimé aussi. Je sens évidemment la lourdeur. C'est la musique, vous en parliez, Corinne, c'est omniprésent. Elle me gêne pas plus que ça, de la même manière que les grands effets de mise en scène qui sont extrêmement répétitifs. Je pense à la manière dont ils filment la maison, l'escalier, voilà, en contre-plongée, en plongée, etc. Ça revient. Il y a vraiment des effets de répétition qui sont lourds. Mais je trouve que la structure générale du film parvient à transcender ça, parce que en fait c'est assez difficile de savoir ce que c'est, je trouve, ce film jusqu'à la fin, parce que c'est très difficile, et c'est là que réside la tension pour le spectateur, de décider quel est leur rapport en fait. Vous avez parlé de muse à plusieurs reprises, ça m'a frappé parce que moi je pense que c'est une fausse piste, le film du créateur, du génie avec sa muse. C'est pas du tout un film là-dessus, c'est pas un film sur un génie qui projette sur sa muse, parce que le personnage, en fait c'est donné comme ça au départ, mais c'est une fausse piste. Le personnage de Alma n'est pas une surface vide sur laquelle il va pouvoir dessiner son génie, s'exprimer, puisque c'est vraiment une forme totalement dialectique, ça ne cesse de changer, le rapport de force ne cesse de changer, et là réside la tension et la finesse, c'est-à-dire que même si les effets sont lourds, et même si le film d'un point de vue plastique est extrêmement lourd, je trouve que sur le fond, et là pour le coup c'est le scénario et le jeu des acteurs, je pense, qui détermine ça, est totalement indécidable jusqu'à la fin. Et moi, je trouve que la fin, enfin, on a dû pas du tout le comprendre de la même manière, comme quoi je pense que c'est un film qui reste quand même très ouvert. Il faut dire quand même qu'il est borné par deux scènes, en effet, de ripaille, on peut dire ça comme ça, cette fameuse scène de rencontre qui a lieu dans un cottage où il commande en effet énormément à manger, et une scène dont on va pas donner le... Voilà, et une omelette aux champignons. En l'occurrence, ce qui se passe entre ces deux scènes-là, c'est quand même énormément de choses. Et c'est pas du tout prévisible. Enfin, moi, je me suis jamais attendue à ce qui allait se passer. Et je trouve que de ce point de vue-là, il y a aussi beaucoup d'humour sur le personnage. C'est-à-dire que ce personnage qui se donne, en effet, comme le disait Charlotte, comme un tout-puissant, à tout point de vue, cérébral, sexuel, etc., finalement, il est extrêmement ambigu. Il change beaucoup, beaucoup tout au long du film. On en rit aussi. Et... moi, je m'attendais pas du tout à ce final. Enfin, je sais.
Alors, on parle tous les. On doit parler tous les quatre du même film. J'ai l'impression d'en avoir vu un autre que vous, Lucille Gaumont, puisque la prévisibilité du film est à peu près totale dès les premières minutes, ou à peu près. Enfin, dès qu'il y a la rencontre avec cette jeune femme, mais c'est pas tellement le problème. Hein. C'est vrai que la bande originale et la bande son est quand même absolument insupportable. Enfin, pour moi, c'est vraiment physiquement pénible, autant que il y a un niveau de mixage qui rend la musique assez forte par rapport au dialogue, plus que dans les mixages normaux de films. Et c'est vrai qu'on est à peine soulagé d'entendre un peu de Schubert parmi les pénibles compositions de Johnny Greenwood, hein, parce qu'il y a un coupable, il faut quand même le nommer. Pour le reste, alors, on parlait d'Hitchcock. Alors, soupçon, oui. Rebecca, évidemment, puisque la sœur, c'est vraiment le décalque de la gouvernante de Rebecca, mais aussi une bonne dose de psychose aussi avec la mère morte. Alors je divulgage à fond pour ceux qui n'ont pas vu Psychose, mais il s'agit quand même de ça. Et moi j'ai trouvé ça de bout en bout lourd, prétentieux, alors souvent risible, mais pas pour l'humour qu'il y aurait dans le film, mais parce que vraiment, on en parle souvent de la question du cliché, de la caricature dans nos émissions, qu'elles soient d'ailleurs littéraires, théâtrales ou cinématographiques. Mais ici, Daniel Day-Lewis, alors, même si c'est pas, il n'en fait pas autant des tonnes que dans There Will Be Blood, mais soit il susurre, soit c'est la colère froide. Bon, il y a quand même deux registres qui sont assez peu originaux pour lui. Et le seul personnage qui m'est vraiment intéressé dans ce film, c'est, alors elle apparaît très peu de temps, c'est Barbara. C'est une femme riche, vieille, bien en chair, pas très belle, et qui voit bien qu'avec une belle robe de Woodcock, ça ne change rien, et qui a vraiment une forme de tristesse, de mélancolie, de fêlure, j'ai trouvé très, très belle. Mais du coup, comme ça ne rentre pas dans le schéma du film, elle est évacuée. Et au contraire, on se moque d'elle à l'intérieur du film, ce que j'ai trouvé particulièrement cruel pour un personnage qui avait un peu d'humanité. Et au final, alors, y compris après la fin, et je vais m'arrêter là, je ne sais toujours pas de quoi parle le film.
Vous dites qu'il est extrêmement prévisible et à la fois, vous ne savez pas de quoi il parle.
Non, mais enfin, plus exactement, parce que j'ai repris vos mots, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Je ne sais pas pourquoi il a fait ce film, en fait. À quoi ça sert de faire un film pareil ? Alors, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure avant l'émission, j'ai remarqué la plaque d'immatriculation de la voiture conduite par Reynolds Woodcock, là, avec ses plans ridicules pour faire mon petit Hitchcock, je fais un hommage avec des transparences, des accélérés. C'est WDF qui m'a fait penser à What the Fuck, qui est quand même peut-être le secret du film, en fait. Je crois que ce film n'a vraiment, mais aucun intérêt. Je le pense comme ça, Lucille Comeau. Charlotte
Alors,
Garçon.
Alors du coup, pour aller dans votre WTF ou DF,
ah, c'est un D,
j'ai une réplique moi qui m'a beaucoup plu. Embrasse-moi avant que je ne vomisse à nouveau. voilà, que j'ai trouvé.
Bon, ça c'est une des meilleures répliques, mais... c'est vrai,
non,
du film.
Cela dit, on parle beaucoup du scénario, de sa prévisibilité, mais quand même, vous pouvez au moins reconnaître, et moi je trouve ça plutôt satisfaisant dans un film, que la mise en scène travaille aussi à cette cette destruction de sa propre maîtrise, disons, cette tentative de mettre à mal sa propre maîtrise. Non, je vous donne un exemple. Par exemple, à un moment, la femme, la muse ou la compagne sort seule parce qu'elle est plus jeune, qu'elle aime s'amuser et que c'est la fête du Nouvel An. Et elle va dans un grand bal masqué, magnifique, dans un lieu magnifique qui fait un peu penser à Un Américain à Paris, le bal des Quatre-Arts. Voilà, on sent qu'il y a vraiment du costume, du décor, il y a un éléphant, un faux éléphant, etc. Et en fait, on a quelques plans et on a presque l'impression qu'il gâche son décor, enfin qu'il filme très peu. Alors on peut dire c'est un snobisme incroyable.
Ouais, c'est l'autocélébration de lui en grand cinéaste.
Non,
c'est tout ce que je vois dans ces films.
Moi, ce que je vois, c'est que ce type-là, il s'en fout complètement. Il va la chercher là-bas. Et finalement, tout se faste autour. Non, tant pis. Il se débarrasse de tout ça. Il y a quelques plans rapprochés. Et il y a très peu une exposition de tous les fastes du décor. Il n'y a pas du tout c'est pas du tout un décor qui est utilisé pour nous informer sur un milieu social, sur une époque.
Ça démontre quoi, donc ?
Deux choses. D'abord, que ce qui l'intéresse quand vous dites que le film, on ne sait pas sur quoi. Pour moi, c'est vraiment, est-ce que c'est possible d'être avec quelqu'un ? Est-ce que ça... Psychiquement, quoi. Est-ce que on peut sortir de soi quand on est un créateur, qu'on est obligé d'être obsessionnel, enfin qu'on vit, qu'on est obsessionnel, parce que sinon on ne créerait pas, je veux dire, voilà. Et est-ce qu'on peut y arriver ? Bah oui, mais c'est pas rien. Enfin,
non, mais c'est faible comme point de départ. Si on sort de ses obsessions, est-ce qu'on va créer ?
C'est énorme. Mais non, mais d'être avec l'autre, de reconnaître que l'autre, c'est aussi le sujet des comédies de remariage. Là, ça, c'est pas le cas. Mais je veux dire, est-ce que l'autre peut faire une empreinte sur nous, ou est-ce qu'on va être toujours à croire qu'on le maîtrise, qu'on le façonne parce qu'on est un homme et que c'est une femme pauvre, etc. Donc, c'est quand même pas rien non plus. Et je pense que la mise en scène, parfois, arrive à ça. Et de même qu'il y a des costumes magnifiques, mais qu'il en fait pas étalage du tout. Et que moi, ce que je retiens, par exemple, et je crois qu'il est aussi à la photographie, Anderson, c'est par exemple les boucles d'oreilles. Plein de gros plans sur les femmes, y compris la sœur, et le type de boucles d'oreilles qu'elles ont, et comment elles dialoguent entre elles, etc. Donc il y a un travail de détail qui est vraiment remarquable, qui n'est pas du tout...
Corinne Rondeau.
Ouais, bon, alors, moi, je suis désolée, mais je vais mettre les pieds dans le plat, quoi. Je veux dire... ce film est un film sur un film oedipien, quoi. Il faut arrêter de nous saouler, quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé d'en faire des caisses, quoi. Je veux dire, c'est quoi ce film ?
Personne n'en fait des caisses.
Mais si, je veux dire, d'abord, vous avez dit mille fois lourd. Bon, bah alors, qu'est-ce qu'il y a de léger pour aimer ce film ? Bah, ou alors, il faut aimer les films lourds. Mais je veux dire, à un moment donné, l'empreinte de l'autre, le couple. Non, c'est juste la capacité. Je veux dire, ce film est lié à la jouissance de soi. soi. C'est-à-dire que le personnage principal, le créateur, voilà, on va le mettre dans une sorte de défaillance de sa domination. Et cette fille qui rentre dans notre milieu, qui n'est pas que sa muse, parce qu'au début elle est sa muse, mais c'est sa chose, puisque au moment où on croit qu'il va la mettre au lit, il va lui faire mettre une robe. Et à ce moment-là, il va se décliner tout un certain type d'action et d'observation de l'un à l'autre, surtout d'elle à lui, pour qu'elle s'émancipe. Donc c'est comment s'inverse, et là on retrouve Hitchcock, comment on va inverser le dominant en dominé, et comment va se trouver l'équilibre dans une situation d'aliénation de couple.
Oui, mais la question, pourquoi vous vous indignez alors, non, mais vous répétez
je m'indigne pas d'une autre façon
plus psychanalytique, il n'y a pas de quoi
mais ça n'a rien à voir avec la question
la dialectique version psychanalytique, ça s'appelle le sadomasochisme, c'est un mauvais sujet, dites-le depuis tout à l'heure,
il en fait pas trop sur les costumes et tout. Moi je m'énerve, mais c'est un artifice, hein, rassurez-vous. Hein. Et voilà,
ce qui se passe à la dispute reste à la dispute.
Mais oui, mais bien sûr, on s'adore en plus. Mais non, mais je trouve que justement, parce que.
Si c'est ça la figure du couple, en effet.
Non, mais parce que si c'est ça la question de l'inversion, il avait déjà ça dans The Master.
Ah mais oui,
ça, il avait fait ça, ce rapport de dominant-dominé. Et on voit bien qu'on se dit à quel moment il va justement faire autre chose. Et je trouve qu'il y a une faiblesse sur la question oedipienne. Je trouve qu'il y a une faiblesse sur, finalement, c'est possible, mais à quelles conditions? Vous avez parlé de vomi, oui, effectivement, voilà. À force de manger des champignons, les choses
arrivent.
Donc, je trouve qu'il y a, un affaiblissement de quelque chose qui commençait avec de l'élégance, quand même. Et au bout d'un moment, on se dit, ce n'est que ça. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure d'une situation, d'un champ social prolétaire.
Dernier mot, Lucille Como.
Non, mais en effet, il y a de l'aliénation dans ce couple, et je vois pas en quoi, en fait, c'est un mauvais objet de cinéma. Au
mais
contraire,
ce n'est que ça.
Ça circule en permanence.
Ça ne dépasse pas cinématographiquement. Mais ça ne dépasse rien. Ça vous a plu.
Mais vous êtes d'accord que ça change. Enfin, pendant le film, vous avez pas, dès le départ, un couple qui ne change pas.
Je crois l'avoir dit. Ça s'inverse.
Bon, vous êtes d'accord et pas d'accord.
En fait, on est d'accord, mais je vois pas en quoi c'est
un
problème.
Non, mais moi, j'ai pas aimé, parce que je trouve ça d'une très grande faiblesse. Okay. Bon. Scénaristiquement, c'est quand même faible.
On parlait de Phantom Thread, de Paul Thomas Anderson, qui est en salle depuis le 14 février. Nous allons parler, dans quelques minutes, de La Forme de l'eau et de Winter Brothers.
France Culture.
La Dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
La suite de cette émission consacrée ce soir au cinéma avec un autre film très attendu, La Forme de l'eau de Guillermo del Toro, un film qui a 13 nominations aux Oscars, ce qui par ailleurs ne signifie rien quant à sa qualité. Le point de départ du récit, Elisa, muette, petite employée, femme de ménage d'un laboratoire gouvernemental très secret, qui a une collègue, Zelda, et elles vont découvrir une expérience en cours.
If I told you about her, the princess without voice, what would I say?
Eliza, come on. Eliza, hurry, hurry.
She deaf?
Mute, sir. She can hear you.
You clean that lab, you get out.
This may very well be the most sensitive asset ever to be housed in this facility.
You may think that thing looks human. Stands on two legs, right? But we're created in the Lord's image. You don't think that's what the Lord looks like, do you?
This creature is intelligent, capable of language, of understanding emotions.
When he looks at me, he doesn't know how I am incomplete. He sees me as I am.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour.
The natives in the Amazon. Pendant cette chanson qui arrive dans le film, celle-là, elle est vraiment dans la bande originale de La Forme de l'eau. quelqu'un m'expliquera peut-être pourquoi tout à l'heure. La forme de l'eau, Guillermo del Toro. Corinne Rondeau, tiens, vous commencez.
Eh bien, je me demande quand Guillermo del Toro va travailler avec Disney.
Oh, fait le public.
Voilà, fait le public. Oh. Alors, donc, je me suis extrêmement ennuyée. Beaucoup. Je trouvais que tout était à sa place, mais c'est comme, ça n'échappera à personne, c'est un conte. Nous sommes dans la période de guerre froide aux États-Unis, avec un monde onirique, puisqu'en fait les Américains ont découvert un monstre marin, mi-homme, mi-amphibien. Et à ce moment-là, donc, il y a tout de même les Russes qui sont quelque part... dans l'environnement de cette base militaire souterraine, et des femmes de ménage, dont Elisa, muette, mais avec sa compagne,
Zelda,
afro-américaine, qui habite dans un appartement à côté d'un gay, et qui va tomber amoureuse de cet animal, vieux gay. Donc en fait, le monde du bonheur, c'est tout ce qui est différent, et puis ce qui est du monde de l'ordre, le film est très binaire, c'est Shannon...
Michael Shannon,
qui, avec son bâton électrifié, est un méchant. Et donc c'est parfaitement démontré dans le film. Donc cette manière de nous conter, je dirais, la sauvegarde de l'amour par le biais de l'eau, puisque vous savez que voilà, l'eau, comme le dit Guillermo del Toro.
Villas.
J'ai un côté tennis. Moi c'est voilà. je préfère les hommes à poil que les hommes amphibiens.
À écailles.
Et voilà, à écailles. Et je ne sais plus ce que j'allais dire.
Guillermo del Toro dit à propos de l'eau.
Oui, l'eau, c'est comme l'amour, quoi. Voilà, c'est pourquoi c'est. Qu'est-ce qu'il dit ? Je ne sais plus. J'ai chopé ça quelque part. Ah, mais ce n'est pas les bonnes notes.
Guillermo del Toro.
Comme l'eau, l'amour n'a pas de forme. Donc, gay, black, muette et animal. Et ça, c'est comment s'accoupler. Et en fait, le bonheur de l'accouplement, le bonheur de l'autre, le grand monde onirique, et la paix et le bonheur, c'est avoir, prendre soin de celui qui est différent de soi.
Bien, Lucille Como, votre vision, parce que vous faites déjà des têtes, comme d'habitude. Vous avez envie de rire quand même.
Oui, non, mais moi je traînais beaucoup des pieds avant d'aller voir ce film, parce que j'ai vraiment un souvenir éreintant du Labyrinthe de Pan, que j'avais trouvé très 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 moche comme film. Là, en l'occurrence, j'ai vraiment éprouvé du plaisir à voir ce film. Je ne me suis pas du tout ennuyée, contrairement à Corinne Rondeau. Alors c'est un plaisir qui est certes régressif, je vais vraiment le dire dans
moi, je mange des coquillettes aussi.
Mais le conte, il fonctionne. Enfin, je veux dire, si on prend le conte dans ce que c'est qu'un conte classique comme vous l'avez décrit, donc totalement binaire, avec des personnages d'adjuvants, des personnages d'opposants, une quête, etc. Je veux dire, c'est efficace sur le papier. Si on prend le pur cahier des charges du conte, c'est plutôt bien fait. Moi, je trouve ça assez rythmé pour le coup. Je trouve qu'il n'y a pas de temps mort. Le suspense de sa voir ce qui va arriver à cette créature. Franchement, moi, j'ai marché à fond. Je trouve que ça tient aussi au fait que la binarité soit soutenue par un jeu d'acteurs qui est certes un jeu totalement caricatural, mais qui, à mon avis, est un jeu assez attractif. Michael Shannon, il a quand même un physique incroyable. On le voit depuis des années en personnage ambigu, parce que personne n'ose lui faire jouer un méchant tellement il a l'air méchant. Là, il est vraiment très méchant. Bah, franchement, ça fonctionne bien. Donc déjà, regardez, je trouve, juste les acteurs dans leur rôle, c'est assez agréable. Par ailleurs, il y a un autre côté régressif qui est que ce film... se pose littéralement, puisque Elisa habite au-dessus d'un cinéma sur tout un fond de références cinématographiques qui, encore une fois, est extrêmement classique, et ça, c'est dès le début et c'est jusqu'à la fin de la même manière, je suis d'accord. Mais moi, les petites incursions dans la comédie musicale, Broadway et tout, ça marche à fond pour moi, donc j'étais ravie de voir ça. Il y a même quand même un passage en noir et blanc, on va pas tout dévoiler, mais qui, pour moi, qui était une surprise et vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Donc j'ai passé un très bon moment, de la même manière que je vois toutes les limites de ce cinéma en studio qui est extrêmement maniéré, avec un côté cabinet de curiosité où tous les petits objets, surtout au début quand on découvre l'appartement d'Eliza, sont filmés un peu tous de la même manière, comme des petits bijoux, etc. En fait, je vois les limites de ce cinéma-là, je vois en quoi c'est pas très beau, mais il y a un côté confortable. Vraiment, c'est ça, confortable, agréable, du visionnage de ce type de film qui a totalement marché sur moi.
Charlotte Garçon, à présent, sur ce film La Forme de l'eau.
Oui, c'est vrai. Moi, après ce début, à la Jean-Pierre Jeunet, quand même, je me suis vraiment dit si ça continue comme ça sur toute la durée. Et d'ailleurs, je ne suis pas étonnée qu'il ait essuyé plusieurs soupçons pour poursuite pour plagiat, et notamment par Jean-Pierre Jeunet, parce que il y a même une utilisation des tic-tac au début dans la vie de ce personnage féminin qui est très rythmé, voilà, qui fait cuire ses œufs, qui se masturbe même à heure fixe, avec un chronomètre, un minuteur, une minuterie plutôt. Voilà.
Un œuf.
Voilà. Donc tout cet ensemble très caricatural du début, et puis sans doute une forme de magie à force de bien faire les choses et d'avoir un goût pour les trucages un peu anciens, parce qu'il y a ce qu'on appelle non pas le day for night, la nuit américaine, mais le dry for wet, qui est donc un trucage théâtral où en fait on projette de l'eau, des images d'eau sur un endroit où il n'y a pas d'eau, et on attache les meubles et les objets avec des fils, et donc tout ça est assez plaisant du point de vue visuel, et qui ont fait que moi non plus je me suis pas terriblement ennuyée après durant la suite du film, mais quand même j'ai été frappée par, non seulement vous parlez de bain évidemment du point de vue symbolique, enfin le côté régressif de cette eau, bon c'est très très lourd là pour le coup, mais c'est aussi un bain culturel de pop culture, enfin puisque on regarde la télévision et tout est, je trouve tout est surécrit, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il veut tout mettre. Il veut mettre toute une culture des années 50, et ça, l'apogée de ça étant l'utilisation de la couleur verte. On n'en peut plus, on n'en peut plus de ce vert dont il nous est dit que c'est pas, attention, c'est pas green, c'est teal, c'est sarcelle, couleur sarcelle, et que c'est la couleur de l'avenir. Et en fait, le film n'arrête pas de presque d'être dans une légère forme d'autodérision, ou du moins d'humour, à regarder son côté sous cloche, puisque à un moment les enfants du personnage joué par Michael Shannon disent ah papa on fait une time capsule, on fait, ben oui évidemment c'est ce qu'il fait aussi Guillermo del Toro, sauf que ça ne suffit pas d'avoir ce côté auto-réflexif, il faut quand même savoir ce qu'il en fait, et ce qu'il en fait c'est peut-être trop évident, à savoir l'autre comme étant aussi l'immigré qu'on va torturer à coups de taser, comme le taser que qu'a le personnage de Shannon. Donc finalement on cherche les aspérités dans le film, et quelles sont ces aspérités? Moi, j'en vois deux et elles sont plutôt malvenues. La première, c'est de finir avec des scènes très violentes qui font que ce film, qui par ailleurs pourrait tout à fait être un film pour enfants, ne peut plus l'être, du coup. Et c'est dommage pour Disney. Enfin, ouais. Effectivement, c'est le côté non Disney, mais qui est pour moi une pure pause d'auteur, qui n'apporte rien au film. Et d'autre part, parce que si on veut être naïf, bah, pourquoi à ce moment-là mettre une très grande violence juste à des petits moments? C'est pas intéressant. Et deuxièmement, une chose plus intéressante, qui était un petit peu une aspérité, qui est pour moi, ce qui me frappe, c'est la ressemblance de Michael Shannon avec ses yeux un peu sur les côtés de la tête et du monstre marin. Et c'est pas moi qui projette, je pense qu'il y a une...
Ah non, mais ils ont tous des têtes d'amphibiens, hein, les acteurs. Hein.
Oui, mais
l'actrice qui joue aussi la compagne de Eliza, elle a aussi une tête de
mais
grenouille.
Mais il y a une sorte de groupe d'acteurs américains qui ont un peu des têtes d'amphibiens, comme Emma Stone, qui aurait pu être dans le film, et c'est assez satisfaisant de voir ces ressemblances, mais le film n'en fait rien. Enfin, me semble-t-il. Sinon, le reste, c'est lisse, du coup. C'est dans ce bain vert de bout en bout.
Alors, le dernier film vert dont je me souviens, c'était La Cité des Enfants Perdus, en effet, de Jean-Pierre Jeunet. Non, effectivement, le vert était un peu de jaunasse aussi, qui était extrêmement pénible. Je trouvais c'est intéressant de parler de ce film après celui de Paul Thomas Anderson, parce qu'il y a cette dimension fétichiste, mais qui est ici vraiment très rance, moi, je trouve. En découvrant ce film, je me suis dit, mais tout ça était extrêmement morbide, cette façon de filmer les objets. Alors, ces fausses suspensions dans l'eau qui me semblent être des images de synthèse, quand même, pour la plupart. Ce que vous décrivez du générique début, enfin, m'a-t-il semblé. C'est vrai qu'il y a un mix entre Amélie Poulain, le début, ça pourrait être ça, et puis La Cité des Enfants Perdus, et voilà. Pour l'image et pour la musique, dont on a parlé, on en a parlé pour Paul Thomas Anderson, mais celle-là est au moins aussi pénible et presque aussi présente, ça c'est Alexandre Desplat qui la signe. Sur la binarité, bon, vous l'avez dit, hein. Et puis aussi, hein, il faut rappeler que les Russes ne sont pas tous des affreux. Enfin, il y a quand même ça aussi, on est tellement subtil.
Il y a un côté parodique sur le film d'espionnage, c'est pas de la subtilité.
La parodie, c'est pas ce registre-là du tout pour moi. Là, c'est juste quelqu'un qui coche des cases, on parle souvent de cela aussi, avec ces personnages minoritaires dont il faut montrer l'oppression, la façon dont ils sont maltraités systématiquement. En 2018, il faut quand même expliquer les choses très, très importante comme cela, que l'autre n'est pas forcément un monstre. Alors, ce qui me surprend le plus, je reviendrai là-dessus, Lucille Como, c'est que vous, qui dites aimer la comédie musicale, vous avez pu apprécier, là encore, alors là, pour le coup, si c'était parodique, j'aimerais
mais
bien.
Mais c'est drôle.
Mais moi, j'aime vraiment la comédie musicale classique. Et quand j'ai vu ça, j'étais consterné par cette...
C'est très
qu'il
drôle.
Ose. Mais non, c'est pas drôle.
Vous parlez du petit moment de comédie musicale, qui
Rod
cite
Bergson,
un peu les films avec Fred Astaire et Rogers. Oui, moi je trouve que ça fait partie de cette espèce de décoration. Je pense qu'il est sincèrement intéressé par tout ça, par toute cette culture américaine qui n'est pas la sienne.
Qu'il en fasse quelque chose.
Mais voilà, il n'en fait rien de spécial. Non, je trouve que c'est aussi quand même un peu méprisant pour le personnage, parce qu'on n'a pas tellement parlé du personnage central qui est cette femme muette, qui est jouée par une actrice, moi, dont je me souviens, et de manière traumatisée. Elle m'avait traumatisée dans Happy Go Lucky de Mike Lee, parce qu'elle arrête t'es pas jacté et que je me disais bon bah elle joue une muette, peut-être que ça va être autre chose, et en fait c'est pareil, c'est-à-dire qu'elle a la même surexpressivité, fausse profondeur, enfin je sais pas, il y a quelque chose là qui me la caricature dans ce type de personnage est pire que la caricature dans d'autres, m'a-t-il semblé. Donc il y a quand même le fait de mettre des sans-voix au centre du film, on comprend bien, c'est les prolétaires, bah, vous les avez là, Corinne Rondeau, les prolétaires sont là et s'organisent à tel point qu'on dit ah mais c'est un commando d'élite qui a fait telle chose, et évidemment c'est trois femmes de ménage, mais tout ça est quand même très grossier, y compris politiquement. Mais pour le coup, on peut pas non plus accuser le film on peut pas exiger qu'il offre une pensée politique complexe nécessairement. C'est pas l'objet qu'il se donne au départ.
Non, mais c'est une chose, mais enfin bon, on peut quand même le souligner, ce manichéisme très très lourd. Et puis drôle la comédie musicale, non, parce qu'il n'y a pas le décalage nécessaire qui amène de l'humour, non.
Si, quand même, le danseur il est un peu particulier, enfin je veux dire,
les danseurs particuliers, je vous en trouve dans les musicales historiques et classiques.
C'est pas parodique, c'est comme La Rose pourpre du Caire, c'est le même type de personnage, de femme, de petite extraction, et qui nous est montré comme étant toute mignonne et toute, prête à se projeter elle s'imagine dansant avec. C'est exactement ce personnage, et il y a une forme de condescendance, effectivement, je trouve, dans l'écriture.
Corinne Rondeau.
Oui, alors vous parlez de la faiblesse politique ou pas. Moi je crois qu'en fait, quand on fait un conte, quand on veut faire quelque chose qui est métaphorique, quand on veut nous donner un univers qui est onirique, mais en même temps, il y a un certain nombre d'éléments qui sont forts au niveau de notre culture. Les minorités, elles sont évidentes dans ce film. Enfin, je veux dire, on peut pas les s'y soustraire. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose chez Guillermo del Toro qui veut nous conduire à penser quelque chose des minorités. Mais je suis désolée.
Mais non, parce que justement, je pense que c'est acquis pour lui. Il n'a pas en tête un discours révolutionnaire là-dessus.
C'est la raison pour laquelle tout de même... ce qui marche, et moi ce qui me désole, si vous voulez, c'est un film qui marche, qui est 13 fois nominé, mais ça m'étonne pas, parce que les Oscars, c'est jamais un bon signe.
Mais,
rarement.
Catherine Bigelow a quand même eu l'Oscar plusieurs fois.
Oui, mais bon, voilà. Pas pour tous les bons films, mais bref. Je veux bien entendre qu'on peut passer un moment plutôt agréable sur ça tient, on peut être touché par certains moments, je veux dire, voilà. Mais je trouve que, et moi je l'ai déjà dit je crois pour une autre émission de cinéma, j'en ai marre des binarités, parce qu'en fait ça met du confort dans la tête de tout le monde, dans la mesure où les choses sont à leur place. Et je crois qu'aujourd'hui la question du politique, et je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas aussi dans le cinéma, mais aussi dans la manière de faire du cinéma. Et quand on fait que de la citation dans son cinéma, c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé par Disney. Et vous avez bien fait, Charles, de dire qu'à la fin, on ne peut pas avoir Disney.
Ni au début. Hein. Full frontal nudity,
oui,
c'est pas très
Disney.
Quand
même.
Oui, on est d'accord.
Donc, moi, ce qui me dérange, si vous voulez, c'est qu'on est face à des films qui, parfois, font beaucoup d'entrées sur des binarités, c'est-à-dire ceux dont on est prêt à parler ailleurs d'une autre manière sur blanc et noir, on en a marre. Et là, quand on nous le raconte avec une dimension onirique, on trouve ça génial. Et moi, je suis à regret de dire que ça ressemble à beaucoup de choses et qu'à un moment donné, il y a une scène qui, moi, m'a frappée. Elle lui a donné du sel dans son bain parce qu'il n'est pas assez salé, l'amphibien, dans sa baignoire. Et donc, son voisin sourit comme ça, genre, regarde, tu fais tomber la salière, quoi, tu vois, tu mets le sel à côté. Et tu dis, mais évidemment, quoi, il faut sauver l'océan et l'amour. Et puis, toute cette eau de la salle de bain qui tombe dans... Qu'est-ce qu'il y a sous les appartements ? La salle de cinéma. Et donc, cet amour qui coule. Mais on est dans un film à vertu poético, je ne sais pas quoi. Donc, moi, j'ai envie de dire que... Oui, c'est un film dégoulinant, parce que je pense que faire avoir une prétention poétique au cinéma, c'est possible. Inventer et créer au cinéma, c'est possible. Mais là, on est avec un nombre de clichés permanents. Et en termes de comédie musicale, je préfère quand c'est les Coen qui font The Big Lebowski.
Lucille Gaumont, allez, vous concluez.
Oui, non, mais en fait...
Encore.
Sur le côté binaire, je suis entièrement d'accord avec vous, puisque j'ai même dit en préambule que c'était ça qui était confortable et qui était plutôt intéressant. En revanche, là où je suis pas trop d'accord avec vous, Charlotte Garçon, c'est sur le côté saillie, qui font un peu bien, sur à la fois la violence et la sexualité. Moi, je pense que la violence, elle est présente dès le départ. C'est pas seulement à la fin qu'il y a des scènes violentes, il y en a plusieurs quand même. Ça revient à plusieurs reprises, de la même manière que la sexualité, elle est présente dès le préambule, puisqu'il y a ces scènes de masturbation qui reviennent.
Elle est présente, mais c'est un leurre, puisque au moment d'un acte enfin sexuel, d'abord, le monstre, c'est Ken. Hein, je veux dire, c'est la poupée, Ken. Bah si, bah, non mais physiquement, il y a rien de visible. Et je suis désolée, il y a une ellipse quand même sur l'étreinte amoureuse qui est un peu regrettable.
Mais il y a une scène aussi sexuelle, vraiment, bon, dans le film.
On n'en dira pas plus, mais on va entendre Boris Pinot, parce que tout à l'heure, je n'ai pas laissé parler pour Phantom Thread et laisser relayer la parole de nos auditrices et auditeurs, Boris.
Un mot de Cyrus North, si vous vous demandez ce qu'est la forme de l'eau, en fait ça dépend du récipient dans lequel on la met. Voilà, je vous ai fait gagner 2 heures. Laurent, lui, parle d'un film, d'un sommet de finesse et de fluidité fidèle au talent de son réalisateur. Gros coup de cœur sentimental et esthétique, allez le voir.
Bon, j'aime bien le premier. Bon, la forme de l'eau, on s'arrête là pour ce soir et pour toujours, je pense. On ne reparlera plus de ce film de Guillermo del Toro dans la dispute, mais il est en salle depuis mercredi.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute cinéma en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, c'est Winter Brothers de Linur Palmason. On va découvrir deux frères qui travaillent dans une carrière de calcaire. L'un d'eux vend aux autres mineurs de l'alcool qu'il fabrique dans son Algeco.
Tu es mille?
Hein?
Ça tout va, Georges?
Il s'est gâté à femme, tu vois.
Det er så bare en kæreste.
Ja.
Er hun flot, din kæreste? Ja, jeg kan sige, du er ikke særlig flot selv. Er du en tyv, Emil?
Det er jeg ikke.
En af mine bedste medarbejdere ligger på hospitalet lige nu, og ved at dø på grund af din sprut. Du dør altså ikke af et lille glas.
Vil du bare være normal ligesom alle andre? Hvorfor skulle jeg det?
Slå!
Emil! Det er det mine øjne, der bakser!
Forsvind med dig. Bliv væk.
Den, ja.
La transe gagne Corinne Rondeau, donc je préfère passer la parole à Lucille Gaumont qui commence sur Winter Brothers. Faites pas cette tête, Lucille.
Non, mais là, ça m'avait énervé, donc je vais être super méchante avec ce pauvre film. Donc, alors moi, je.
Mais non, vous a pas énervé.
Non, mais si, un petit peu. Alors, c'est un film
moi,
que...
Putain, les gens disent mon Parlez-moi mal à moi.
Disons que c'est un film blanc, qui est cousu de fil blanc, donc tout est blanc. Donc à partir de
là... Ah, c'est ça que je voulais dire sur le fil fantôme, j'ai oublié. C'est cousu de fil blanc. Voilà, merci, bah voilà. Lucille. On est...
Non, en
la
fait,
boucle
c'est
est bouclée.
Un film dont j'ai trouvé que la structure est tellement visible dès le départ qu'elle occulte totalement ce qu'est le récit. Et il y a bien un récit dans ce film. C'est une structure qui, en gros, fait alterner de manière, pour le coup, très binaire aussi. L'action, donc cette histoire de deux frères qui travaillent dans une mine dont on ne saura jamais vraiment ce qu'on extrait, mais c'est extrêmement blanc. C'est une sorte de chaux ou de terre blanche,
calcaire,
un peu poudreuse.
Je viens de le dire, mais... Je me suis renseigné, j'étais voilà. Au Danemark pour...
Et des séquences qui sont très esthétisantes, avec la musique de type de celle qu'on vient d'entendre, qui sont des plans fixes sur les personnages ou sur des lieux qui composent à la fois donc, ce lieu ouvrier et le lieu où habitent les deux frères et les autres ouvriers. Donc en fait, on voit énormément le dispositif, parce qu'il s'agit bien de dispositif, le cinéaste est plasticien à l'origine, et on sent ça, il y a un côté très artificiel, moi je trouve, d'un point de vue cinématographique. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal, en regardant le film, à m'intéresser aux personnages. Ce qui est embêtant parce que en fait, je trouve que la structure plastique entre guillemets ne suffit pas à tenir l'attention du spectateur sur un long métrage. Donc du coup, on s'ennuie quand même, moi je trouve, beaucoup. Et pourtant, le personnage principal n'est pas inintéressant. En fait, il y a en germe dans le film beaucoup de choses qui sont intéressantes, qui tiennent aussi aux acteurs qu'a choisi Ignur Palmason, et notamment à cet acteur principal dont j'ai regardé une photographie officielle, entre guillemets, et qui ressemble pas du tout à ce qu'est le personnage d'Emile. C'est très étonnant. C'est plutôt un beau gosse, un peu danois, voilà, avec
un
des grands
danois.
Yeux. Ouais. Et là, dans le film, il en fait une sorte de pantin qui a beaucoup à voir avec des personnages de films muets, avec un corps très burlesque, évidemment avec tout le calcaire et tout ce qui se met partout sur le corps. Il y a un côté clown blanc qui est évident. Donc tout ça, la tristesse, le côté burlesque, il y a des grands moments d'étrangeté, puisqu'il essaye d'apprendre à tirer au fusil en regardant une vieille cassette vidéo qui devient une sorte de fantasme avec des moments oniriques. En fait, il y a plein de choses. Quand je l'ai dit comme ça, ça m'intéresse. Mais la vision du film ne me les donne pas, en fait, ne me les laisse pas atteindre du tout.
Bien. Chat de garçon.
Oui, je suis assez d'accord avec cette perception. C'est-à-dire qu'on se demande à quel moment le projet esthétique et suresthétique, enfin, est très esthétisant du film. C'est grand, ces longs plans sur le paysage, ce travail sur le bleu clair, le gris clair, le blanc, etc. Vont rencontrer le récit. Enfin, comment est-ce que les deux vont, non pas rencontrer, puisque le récit se passe dans ces paysages, mais vraiment vont s'articuler et peut-être que ça ne se produit pas vraiment, et pourtant, je trouve que le film a pour le coup un côté rugueux qui fait qu'on ne sait pas ce qui se trame à l'intérieur de chaque plan. On ne sait pas tout de suite, donc de même qu'on ne sait pas tout de suite ce qu'on voit, est-ce que c'est un plan large de falaise, de calcaire, d'une carrière, ou est-ce que c'est un plan un peu rapproché d'autre chose. Donc il y a une sorte de petit mystère, une mini-dramaturgie d'identifier la matière. Bon, ça, je trouve ça pas mal. Et d'autre part, on se demande à l'intérieur d'une séquence, par exemple, pourquoi la caméra se rapproche d'une fenêtre, que se passe-t-il derrière cette fenêtre, et ça me semble pas surfait dans le sens de quelque chose de très spectaculaire, ou bien le personnage passe sa main, parce qu'il y a les fenêtres s'entrouvrent un petit peu, il passe sa main et il cherche ce qu'il peut attraper. Je vous dis pas ce qu'il attrape, mais voilà, il y a des petits spectacles comme ça, des petits théâtres qui, à l'intérieur de chaque séquence, quand même nous tiennent en éveil, mais il manque une sorte d'intérêt pour le récit d'ensemble. Et pourtant, il y a du récit. On ne peut pas dire qu'on n'a pas une attente sur ce qui arrive à ces deux frères et ce qui arrive presque. Ça m'a fait penser à des films de mines, des fictions dans des mines en Chine, avec toujours cette peur que finalement l'usine, qui est l'usine de traitement de ce qu'on extrait, soit quelque chose de très décrasant. Et au lieu de nourrir les employés, enfin de les faire vivre, qu'elle peut aussi les tuer. Mais je remarque aussi que ce soir, il y a un film fantôme, je vous félicite pour la programmation des trois films, parce que cette idée de poison est vraiment là, y compris dans ce film-ci. Et il y a quand même quelques trouvailles de l'ordre de la prestidigitation visuelle qui tiennent quand même en éveil, je trouve. Et c'est quand même un premier film. Donc,
Bien. Corinne Rondeau, Winter Brothers.
Oui. Oui, je suis d'accord avec ce que dit Charlotte parce que
tout le monde est d'accord.
Non, mais justement, peut-être qu'il a pas. Non, mais c'est pas que c'est pour bien. Une fois d'abord. Et puis ensuite, je pense que c'est le film nous c'est le film qui nous le donne parce que ça commence quand même dans du noir. Enfin, on n'arrive pas à savoir ce qu'on voit et tout le long du film, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Là, pour le coup, je suis dans une situation un peu d'incompréhension à certains moments. Et c'est vrai que comme on est dans l'isolement, on est dans le blanc, comme vous l'avez dit. En même temps, ce blanc, il est saisonnier aussi, puisqu'en fait, il y a des explosions, puisqu'on les hommes travaillent dans la mine, et puis il y a des explosions parfois. Donc, on passe d'un temps sec, presque sec, à un temps neigeux. Et donc, ce blanc, il est dans tous les états. Et tous ces états sont aussi tous les états que vont vivre un certain nombre de personnages dans le film. Peu, puisqu'il y a beaucoup Émile. Et c'est vrai que ce personnage, il est toujours au bord d'une explosion. Et on sent, je suis d'accord avec vous, parce que ça relève, quand vous citez éventuellement des films chinois ou des mineurs en Chine, etc., cette idée que le film est tout le temps en suspens et en inquiétude. Enfin, c'est toujours, il y a quelque chose qui nous inquiète, parce qu'on ne sait pas si ça va finir ou ça va aller quelque part. Ça nous inquiète parce qu'il y a des tensions, mais on ne sait pas à quel degré sont les tensions. Et en même temps, inquiétude et donc et suspension, parce que le film est fait de scènes ou de scénarisation. Par exemple, le moment où il rencontre son patron, puisqu'il y a une histoire d'alcool frelaté qu'il fabrique. Et donc, cet alcool conduirait quand même à aller... Donc, il voit son patron, je peux pas dire. Bon, bref. Et donc, il y a une tension qui se fait, une tension presque à la thriller, comme s'il y avait un flic avec un mauvais garçon ou un innocent, on sait pas trop. Et c'est vrai que ce personnage-là, qui est tout le temps dans des situations extrêmes ou en retrait, il a un visage d'idiot, de naïf. Et en même temps, c'est le roublard. Et en fait, on ne sait jamais à quel endroit ce personnage se situe. Et ça se passe effectivement dans des contrées qu'on ne connaît pas, et avec des métiers qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire passer sa vie, grosso modo, sous la terre ou à l'air libre, avec des abris, enfin des maisons là, dans une lumière blanche. Et moi, j'ai été quand même intriguée, même si j'ai mis du temps à comprendre... Enfin, j'étais un peu perdue par ce film et je trouve qu'il y a toujours un bon côté au fait d'être perdue ou de errer même avec des choses culturelles.
Oui, même si je pense qu'il joue un peu trop avec ce sentiment.
C'est le côté
de vouloir
plasticien
nous perdre.
Et photo.
Il y a une hybridation qui ne fonctionne pas vraiment entre une dimension très plasticienne, une dimension narrative qui ne serait pas loin de Corisse Maki. C'est peut-être l'air du Nord aussi qui fait ça. Une sorte d'ahurie au milieu de situations quand même. Dont il est acteur, mais quand même, dont il subit aussi beaucoup les actions et les actes des autres. Parce qu'il y a le noir et le blanc, mais il y a le rouge aussi, la couleur de cet alcool, le rouge du feu, le rouge des lampes. Oui, mais enfin, il y a quelque chose qui brûle aussi, ou qui pourrait brûler. Enfin, c'est un film qui reste indécis.
Il ne peut pas ouais. brûler. C'est un film qui est justement se met en retrait. Et comme en fait, je pense que c'est vraiment une posture liée au réalisateur qui est, au lieu de réaliser toutes les actions, il est en retrait en permanence. Donc,
ouais,
effectivement.
Mais je ne suis pas sûr que le choix marche.
Non, mais je ne dis pas.
Forcément,
mais
pour
c'est
le spectateur.
Un premier film.
Oui, oui. Voilà. Mais voilà, je crois qu'il n'a pas trouvé la façon de mélanger ses envies.
Il est ouvert
sur Como. Oui.
Moi, en fait, je trouve intéressant justement le côté extrêmement déceptif et inquiétant de ce point de vue et fragile du récit. Le problème, c'est que je crois qu'il le compense. Parce qu'il a besoin de le compenser, alors que ça pourrait être donné de manière fragile par des gros effets d'esbrouf. Enfin, moi, je trouve au niveau de la réalisation,
la musique,
la musique les plans séquences. Il y a des plans séquences.
Oui, et puis il y a des enchaînements d'images fixes.
Bon. Voilà, on sent qu'il a voulu faire beaucoup de choses formellement, comme pour parce que je sais pas, peut-être il n'était pas rassuré par la propre inquiétude ou l'étrangeté qu'il avait insufflé à son récit. Donc du coup, ça contraste et c'est dommage.
Allez, on finit avec Boris Pinault, quelques avis récoltés.
Romain LV qui liste trois bonnes raisons d'aller voir Winter Brothers. L'hallucinante bande-son, la naissance d'un cinéaste radical sachant composer un paysage mental et l'un des films les plus bizarres que vous verrez en 2018. Sunday Girls, Winter Brothers aussi entre drame et burlesque à travers le personnage principal qui contribue à rendre l'atmosphère étrange et décalée. Le travail sur le son et les images est remarquable, un univers très particulier qui a le mérite de nous surprendre.
Oui, enfin, en tout cas, il nous stimule quand même, de certaines façons, ce film-là, Winter Brothers, de Linur Palmason,
qui est sorti sur les écrans mercredi dernier. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute, Camille André quitte son live tweet pour venir au micro, nous donner d'abord la question du jeu d'hier soir et surtout sa réponse, Camille.
De quelle pièce est extraite la célèbre réplique « Le monde entier est un théâtre » inscrite sur le frontispice du Théâtre du Globe à Londres ? Et la pièce est « Comme il vous plaira » de Shakespeare.
Ce soir, on fait gagner les DVD du film « Gabriel et la montagne » de Felipe Barbosa, édité par Condor. Quelle est la question, Camille ?
Eh bien, de quelle montagne est-il question dans le film « Gabriel et la montagne » ?
Ça me paraît bien comme question. La réponse, si vous l'avez, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de lundi à poster sur la page Facebook La Dispute FC ou sur le compte Twitter Dispute FC. Rendez-vous donc lundi à 19h pour une dispute consacrée à la danse. Nous serons en compagnie de Anna Sigalevitch, Philippe Noisette et Florian Guettet. À notre affiche Bestilichen d'Emma Deante, un programme Benjamin Millepied, Maurice Béjart, l'Opéra de Paris, et puis Tout d'abord par le collectif La Horde qui est en tournée.